L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne L'AJT du local pour cette nouvelle édition. Nous sommes lundi 23 novembre. Bonjour Claire.
Bonjour tout le monde, en direct à Laval toujours.
En direct de Laval évidemment pour, voilà, vous l'avez compris à chaque fois, cette émission animée donc par deux personnes, ça c'est une évidence, mais en plus de deux studios différents en Mayenne. Et aujourd'hui, on va parler du réseau Locavore, à peine installé à Château-Gontier. Il a déjà trouvé ses adeptes, une manière de consommer des produits locaux, de saison et parfois bio. Une période difficile aussi pour le sport amateur, complètement à l'arrêt depuis 3 semaines. Le Mayennais Alexis Huolmé, nouveau président de la Ligue régionale de handball, réfléchit déjà à un accompagnement pour les clubs. Et plongé dans les coulisses d'un FJT confiné, c'est ce que vous propose Claire toute la semaine à Laval. Aujourd'hui, rencontre avec les animateurs du foyer de jeunes travailleurs en fin d'émission.
Mais tout de suite, Marie, un point sur l'actualité, des renforts étudiants dans les hôpitaux de la région.
L'Agence régionale de santé évoque des situations de grande tension dans les hôpitaux et donc un besoin rapide de soignants qualifiés et compétents. En Mayenne, une 50aine d'étudiants infirmiers de deuxième année vont être mobilisés pour renforcer les équipes soignantes et faire face à la crise sanitaire de la Covid. L'ARS et Pôle emploi recensent aussi les demandeurs d'emploi qui pourraient s'engager au sein des maisons de retraite.
Les chiffres de l'épidémie se stabilisent.
Il y a des choses encourageantes, mais il ne faut pas relâcher les efforts, martèle Jean-Jacques Coiplet, le directeur de l'ARS des Pays de la Loire. Selon le dernier bulletin de l'agence, 129 personnes sont hospitalisées en Mayenne. Le taux d'incidence a baissé à 202,4 cas pour 100 000 habitants. Le taux de positivité, lui, est de 14,1%.
600 millions d'euros en moins pour les entreprises mayennaises.
Conséquence économique de la crise sanitaire, selon les chiffres de la direction départementale des finances publiques, sont surtout touchées les entreprises de moins de 400 salariés, avec des différences selon les secteurs d'activité. Dans l'hôtellerie-restauration, le chiffre d'affaires a baissé de 38%, moins 19% pour la construction et moins 15% pour l'industrie manufacturière. Seule l'agriculture arrive à tirer son épingle du jeu. Et puis en Pays de la Loire, 3500 emplois de l'économie sociale et solidaire ont été détruits à cause de la crise sanitaire. En Mayenne, ce sont 336 emplois en moins entre juin 2019 et juin 2020. Sont particulièrement touchées là aussi les associations œuvrant dans le domaine du sport, loisirs, arts et spectacles.
Sur la route du Vendée Globe, Fabrice Amedeo remonte son classement.
Petit à petit, le skipper de Newrest Art et Fenêtre dépasse ses concurrents et occupe désormais la 28e place. Maxime Sorel reste lui constant à la 14e place au dernier pointage à midi. Et puis en foot, toujours pas de victoire pour les Lavallois en national. Les Tangos ont fait match nul 0-0 face à Boulogne-sur-Mer vendredi soir. Un 7e match d'affilée sans but inscrit dans le jeu.
Et très pratique, Marie, des produits frais locaux réunis en une seule commande.
Eh oui Claire, c'est le principe du réseau Locavore dont une antenne vient d'ouvrir à Château-Gontier. Et c'est vous qui faites votre panier en commandant œufs, farine, fromage, fruits et légumes, viande, pâtes, miel ou bière. Le choix est large et le fonctionnement très simple. Vous vous inscrivez sur le site locavore.fr, rubrique Château-Gontier. Vous commandez vos produits du samedi au mercredi soir et vous allez les chercher le vendredi soir chez Anne-Cécile Charrier, la créatrice de l'antenne castro-gontérienne de Locavore propose aussi la location le week-end, la livraison pardon, le week-end, dans un rayon de 20 km autour de Château-Gontier. Et ça fonctionne. Lancé il y a 10 jours, près de 300 personnes se sont déjà inscrites et une 50aine de paniers ont été commandés chaque semaine. Un succès qui s'explique en partie par le confinement, selon Anne-Cécile Charrier.
Moi, je mets aujourd'hui l'enthousiasme des gens un petit peu là-dessus, mais j'ose croire que les gens resteront fidèles à leurs petits producteurs et vont apprendre aussi à consommer et à changer peut-être un petit peu leur mode de fonctionnement. En tout cas, moi, j'y suis passée depuis quelques années et pour rien au monde, je reviendrai en arrière. De la qualité, du goût, pas loin de chez soi, c'est parfait. Je suis vraiment ravie, je revis, je travaille différemment avec un autre rythme qui colle beaucoup mieux à celui de mes enfants, au mien, à ma vie personnelle, à ce que j'ai envie de faire. D'être son propre patron, ça a aussi cet avantage-là. Ok, on compte pas ses heures, mais c'est que du bonheur, vraiment.
Elle travaille avec une centaine, décidément j'ai du mal avec les chiffres aujourd'hui, elle travaille avec une trentaine, c'est déjà bien suffisant, de producteurs locaux, pour la plupart installés à moins de 50 km de chez elle, avec un critère, proposer des produits bio et en agriculture raisonnée, pour laisser le choix sans créer de concurrence. Parmi eux, Coralie Galaudet, de la ferme du Grand Clocher à Aurigné, qui propose du lait et de la viande de veau. Elle a tout de suite vu l'intérêt de ce réseau locavore.
C'est de diversifier, c'est de se faire connaître. Et puis le projet d'Anne-Cécile nous paraissait très intéressant. C'est local, c'est social. Ça met en avant des petits producteurs. Ça permet de se faire connaître. Et puis il y a le lien aussi avec le consommateur qui est très important. Et puis faire connaître notre métier aussi. C'est une façon de pouvoir vendre son produit sans forcément gérer toute la logistique. Voilà, les gens s'inscrivent, ils commandent. Nous, on a juste amené le produit le jeudi soir ou le vendredi matin, peu importe. Ça permet d'alléger tout ce qui est logistique et puis tout ce qui est temps consacré à la vente directe.
Apprécié par les producteurs, mais aussi par les clients qui n'ont accès qu'à un seul autre locavore en Mayenne, à Goron, à Château-Gontier, certains sont déjà convaincus.
On vient surtout pour avoir des produits locaux, des produits frais, et puis faire travailler tous nos agriculteurs et tous les gens du secteur. On arrive, tout est prêt, on paye en ligne, comme ça on n'a plus à payer ici, on amène juste notre cabas, et puis on embarque et dans les frigos en rentrant. Alors ce soir on a pris des légumes, des œufs, et puis c'est tout ce soir. Semaine prochaine, je pense que je prendrai de la volaille pour tester aussi. Donc on prendra un petit peu des produits nouveaux comme ça, s'il y a des produits pour les fêtes notamment, et bien on testera.
En l'occurrence, des huîtres seront bientôt proposées toutes les deux semaines. Anne-Cécile Charrier ne compte pas s'arrêter là. Elle envisage d'ouvrir une deuxième antenne à Laval et en parallèle de faire une formation pour devenir elle-même agricultrice. Élue pour 4 ans à la tête du handball régional et déjà de nombreux défis à relever, vous entendrez d'ici quelques minutes l'interview du castro-gontérien Alexis Huolmé après avoir écouté Elephants. On écoute Sorry is not enough. Where you go, you don't want to be found. Where you go, you don't tell anyone. And so I am waiting here by the phone. And so I stand in relegation zone. On you go when it's late, when it's dark. When you go, I never spy you out. Doubts all this time, freezing me to the bone. Till this one night, I knew you weren't alone. Just give it up a bit. No, stay away, 'cause you don't even try. No, no, I don't play, 'cause sorry's not enough. 'Cause you hide, because you just give it up a bit. No, stay away, 'cause you don't even try.
Seems so. there's no way to go. But then lions turn into cats, 'cause I'm so mad about you. I'm so mad about you. There is none I can do. No, no, I don't play, 'cause sorry's not enough. Because you hide, because you just can't help it, baby. No, stay away, 'cause you don't even try. Just give it up a bit. No, stay away, 'cause you don't even try. No, no, I don't play, 'cause sorry's not enough. Because you hide, because you just give it up a bit. No, stay away, 'cause you don't even try.
Bien sur l'autre radio à l'écoute de l'agité du local. Le nouveau président de la Ligue des Pays de la Loire de handball est mayennais. Déjà très impliqué dans différentes instances, Alexis Huolmé est arrivé à la tête de la Ligue régionale début novembre. Il a été aussi pendant plusieurs années le président du club de l'Union Sud-Mayenne à Château-Gontier, où il reste très impliqué. Première question déjà à Alexis Huolmé, être à la tête du hand en région, c'est un projet mûrement réfléchi ?
Alors mûrement réfléchi, oui. Plusieurs mois, quelques mois, oui, mais à l'origine, comme j'ai pu le dire depuis quelques temps, j'étais pas destiné dans un premier temps à prendre la présidence de la Ligue. J'étais même, enfin, il y avait deux listes à l'époque qui s'étaient présentées, et je faisais moi partie d'aucune de ces deux listes, alors sachant que j'étais moi déjà membre hein, du conseil d'administration de la Ligue à la mandature précédente, mais j'étais engagé sur aucune de ces deux listes parce que je défendais avec un collègue la volonté de se dire que on était tous réunis autour d'une question qui était le handball et qui était le sport et qu'on n'avait aucun intérêt à se déchirer et à se retrouver à deux listes face à face pour les prochaines élections. Donc j'étais plutôt, moi, dans la volonté d'aller vers une liste plutôt d'union et de rassemblement de personnes et de compétences qui auraient envie de se réunir autour d'un projet qui est le handball en oubliant un petit peu peut-être les différences qui existaient entre les personnes, parce que c'était principalement ça qui animait les deux listes précédentes, mais en oubliant un petit peu les différences qui existaient entre les personnes pour se mettre au service d'un projet et se mettre au service d'un handball en Pays de la Loire. Donc ça, c'est le projet qu'on a mené donc depuis le mois de février dernier, qui a abouti au mois de juillet-août de cette année à un accord de la part des deux listes de retirer leur candidature pour aller sur une liste de rassemblement et d'union que je portais en tant que tête de liste. Donc on a commencé à travailler pour écrire le projet qui a été à 90% le projet avec lequel on a été élu nous le 2 novembre dernier. On a travaillé sur des volontés de rassemblement, etc. Jusqu'au 22 septembre dernier, avec une clôture des listes qui étaient le 30 septembre, jusqu'au 22 septembre dernier, où une des deux listes avait fait le choix de se retirer finalement de l'union qu'on avait construit ensemble pour finalement présenter la liste qu'ils avaient prévue et anticipée au mois de février dernier. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé finalement à deux listes face à face à la fin du mois de septembre.
Et donc c'était une surprise pour vous que votre liste soit choisie, ou c'était dans l'air du temps, vous le sentiez auprès de vos collègues que le projet prenait bien ?
Alors non, alors c'était ni une surprise une certitude qu'on soit élu, parce que finalement notre liste elle passe seulement avec 60 voix d'avance hein, sur la liste adverse. Donc il y a eu vraiment une campagne, une volonté de vouloir discuter avec les clubs, et on a vraiment interrogé beaucoup de clubs. On a pris vraiment le temps d'appeler les clubs pour échanger avec eux sur leurs problématiques du moment, sur la vision qu'ils avaient eux de la Ligue, pour pouvoir construire le projet clairement pour les les 4 ans à venir. Et c'est notre projet qui a remporté la majorité des suffrages. Mais voilà, on n'est pas du tout pour les membres de Manifeste aujourd'hui en train de crier à la victoire et au carton plein parce qu'on n'est pas du tout dans cette dynamique-là et que notre volonté à nous c'est de travailler au service des clubs de handball des Pays de la Loire. Et la période électorale est désormais terminée, la période de campagne est désormais terminée, et notre intérêt à nous, c'est de se mettre au travail pour les 4 prochaines années.
Et donc là, du coup, vous-même et votre liste avez été élus pour 4 ans sur un projet, vous le disiez, qui s'appuie beaucoup sur les clubs. Quelles sont les grandes orientations, les grandes pistes ?
Je pense que la priorité qu'on doit mener et porter aujourd'hui, c'est la réponse qu'on va apporter à la crise sanitaire qu'on est en train de vivre en ce moment, et surtout quel accompagnement on va pouvoir apporter au club, parce que c'est eux quand même qui demain seront plus en difficulté, parce que les financements sont en baisse, parce qu'on perd des licenciés quand même à cause de cette crise sanitaire. C'est la première fois depuis des années que l'handball français perd des licenciés dans ces clubs. Donc il y a une vraie réponse à apporter à cette crise sanitaire, mais même en termes d'organisation, parce qu'on l'entend depuis quelques temps, mais le monde associatif perd des bénévoles de façon assez importante, lié aussi au désengagement des personnes, parce que quand la vie associative elle s'arrête, forcément elle a du mal toujours à redémarrer. Donc il va vraiment falloir apporter une réponse à toutes ces difficultés-là. Et ensuite, c'est comment et quelle stratégie on met en œuvre pour accompagner les clubs de notre territoire à se structurer, permettre aux clubs de notre territoire de se développer pour développer notre fédération régionale.
Puisque cette fédération régionale, déjà, elle comporte combien de licenciés aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, c'est une fédération de 25 000 licenciés.
Par rapport aux ligues des autres régions, c'est plutôt les Pays de la Loire sont plutôt une région à handball ou pas forcément ?
Alors, les Pays de la Loire sont une région à handball, mais depuis des années, la Ligue des Pays de la Loire a été une des plus grosses ligues de France pendant des années, mais jusqu'à la loi NOTRe, du coup, forcément, parce que les autres régions ont pour la plupart connu un rassemblement de régions, donc sont passées bien au-delà de nous en nombre de licenciés du rassemblement des régions, et les Pays de la Loire ne tiennent plus la première place du classement de la plus grosse région de handball de France. Pour autant, ça reste une région de handball avec des licenciés de handball présents dans tous les départements de notre région. Donc voilà, on reste aujourd'hui une grosse ligue de la Fédération française de handball.
Et malgré cette perte du nombre de licenciés que vous évoquiez, vous avez une idée de combien ça représente là sur cette saison ?
Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est à 6% de baisse de licenciés à la même date que l'année dernière. Donc 6% de baisse de licenciés à ce jour. C'est pas une grande perte, pour autant, ça reste quand même 6%. D'habitude, normalement, on aurait dû être en année olympique. Il faut savoir que normalement, en année olympique, notre fédération, elle remporte plutôt 10% de licenciés supplémentaires plutôt que 6% de licenciés en moins. Donc on peut peut-être espérer qu'avec les JO de Tokyo l'année prochaine, notre fédération de nouveau et les bons résultats de notre équipe de France, notre fédération de nouveau réussira à aller chercher 10% de licenciés supplémentaires, mais ça ne viendra compenser que les 4%, que 4% finalement des 6% de licenciés qu'on a perdu. Quoi.
Donc c'est vrai que là, de toute façon, l'urgence, on va dire, le quotidien, c'est vraiment de faire face à la crise sanitaire, puisqu'il y a des clubs qui sont en danger là dans la région ou même dans le département ici en Mayenne.
Alors, j'ai pas connaissance de clubs qui seraient aujourd'hui spécifiquement en danger, mais entre nous, un club de sport où la compétition s'arrête, c'est déjà un club en danger. C'est-à-dire qu'au-delà du volet financier, etc., je pense que nos clubs aujourd'hui, ils vivent aussi parce que leurs pratiquants sont présents dans les salles de sport tous les jours. Ils s'entraînent, ils jouent. Quand les pratiquants, je pense bien à la fois aux pratiquants les tout petits, les plus jeunes, jusqu'aux plus vieux. Et au-delà du handball et au-delà du sport, je reste convaincu qu'un club de sport, c'est avant tout un lieu de citoyenneté, c'est avant tout un lieu où les gens se retrouvent pour passer de bons moments, où les gens viennent pour partager de bons moments autour d'une passion qu'est le sport. Et qu'aujourd'hui, on a besoin de retrouver clairement cette dynamique-là. Qu'on avait beaucoup perdu lors du premier confinement, qu'on a eu beaucoup de mal à retrouver parce que la saison sportive s'est arrêtée début mars, on n'a pas repris après parce qu'il y a eu les grandes vacances, on a dû à la fin de fin de l'été, à la fin de l'été pour cette nouvelle saison, et puis de nouveau au bout de deux mois tout s'arrête de nouveau. Ça veut dire que concrètement on a des structures qui aujourd'hui ont remis énormément d'énergie pour retrouver une dynamique associative, une dynamique de club, et on se retrouve de nouveau complètement à l'arrêt. Donc ça veut dire qu'il faudra de nouveau remettre une énergie pour reprendre la suite de tout ça, et aujourd'hui on a besoin d'accompagner les structures pour retrouver cette dynamique là et on a surtout besoin de reprendre, de reprendre notre sport et de permettre à nos jeunes licenciés, nos plus ou moins jeunes licenciés, de pouvoir reprendre de leur passion aussi, parce que des fois, c'est aussi ce qui rythme les week-ends pour certaines familles, c'est aussi ce qui rythme la semaine aussi pour certains handballeurs qui sont très attachés à leur sport. Donc voilà, il faut absolument que on puisse reprendre cette dynamique associative, et également pour faire en sorte que les dirigeants qui sont engagés depuis des années dans ces structures ne voient pas tout le travail qu'ils ont pu entreprendre disparaître lors de ce confinement.
Et là, vous misez plutôt sur une reprise début janvier ?
Si on écoute le discours du Premier ministre, qui avait l'air de dire quand même que les salles de sport seront fermées jusqu'aux vacances de Noël, on peut espérer que la vie associative de nos clubs puisse reprendre pendant les vacances de Noël. Maintenant, même si je suis quelqu'un de très optimiste, je pense que de toute façon, les compétitions ne pourront pas reprendre d'ici janvier. Maintenant, voilà, il faut aussi s'assurer, c'est un équilibre qui est compliqué à trouver aussi. Il faut s'assurer que la crise sanitaire, elle puisse être... on vit quand même une crise sanitaire sans précédent, où c'est toujours difficile aujourd'hui de la contenir. Donc on peut pas non plus, sous prétexte de vouloir reprendre le sport, absolument remettre en danger les personnes et les citoyens. Donc il y a tout un dispositif à reprendre. Maintenant, notre fédération a prouvé sa capacité, et nos clubs ont prouvé leur capacité à pouvoir établir des protocoles sanitaires stricts avant ce deuxième confinement, qui permettait de limiter au maximum la propagation du virus. Ils ont mis énormément de moyens pour pouvoir reprendre les compétitions et les accueillir dans les meilleures dispositions possibles, avec des fois des difficultés que c'est pas les mêmes règles dans toutes les collectivités, etc. Donc il a fallu aussi que chacun s'habitue et mette en œuvre les règles pour pouvoir protéger l'ensemble de ses pratiquants. Donc voilà, nos clubs sont prêts, je pense réellement, à pouvoir reprendre avec un protocole strict. Ils savent aussi que ça passera forcément par là, le temps que cette épidémie se réduise considérablement. Mais voilà, il faut falloir qu'on puisse leur donner. J'aimerais quand même qu'on puisse leur donner une perspective qui soit claire, pour que au moins les gens puissent savoir à quoi sont.
Donc ça, effectivement, on va suivre un petit peu dans les prochaines semaines. C'est toujours difficile, j'imagine, de se projeter. Je voulais revenir plus sur votre parcours à vous, puisque donc vous avez été élu président, on l'a dit, de la Ligue de handball des Pays de la Loire il y a quelques jours. Très jeune, à 27 ans, j'imagine que c'est rare en tout cas qu'il y ait un aussi jeune président. Le handball, c'est depuis tout petit, de toute façon, ça allait très vite.
Tout petit, je pense que j'ai signé ma première licence au Château-Gontier handball, je devais avoir 5 ou 6 ans. Donc c'est une passion depuis que je suis petit. J'ai toujours été quelqu'un d'engagé dans les structures, que ce soit mon club, le Château-Gontier handball à l'origine. J'étais membre du comité départemental de handball de la Mayenne. J'étais président de l'Union Sud Mayenne Handball également juste avant de prendre ce mandat de président de ligue. Et j'étais déjà engagé à la ligue avant également de prendre la présidence. Donc le handball est une passion. J'ai jamais été un grand joueur et je ne me suis jamais destiné à devenir un grand joueur de handball. J'ai mis plutôt mes compétences au service d'autre chose, et puis comme la vie statutaire des associations et le fonctionnement d'une association est quelque chose qui pour moi est plutôt une passion aussi, est un autre volet de ma passion. Je rends clairement au handball aujourd'hui, je rends un service au handball aujourd'hui que le handball m'a donné pendant des années. Donc il y a des gens qui sont investis et qui ont pris ces rôles-là avant moi, et c'est juste titre que je leur rends aussi cette dynamique au travers de mon investissement aujourd'hui.
Et vous parliez de l'Union Sud-Mayenne, donc ici entre autres à Château-Gontier. Est-ce que vous allez rester le coach de l'équipe 1 en pré-national cette année ?
Alors c'est une volonté de ma part. J'ai souvent tendance, quand je m'engage dans les projets, de m'engager du début à la fin. Donc je resterai... C'est une volonté de rester l'entraîneur de l'équipe en pré-national. C'est une équipe qui est engagée avec de grands objectifs et je souhaite poursuivre également mon engagement à leur côté parce qu'on quitte pas un navire lorsqu'il est en pleine mer. On est actuellement en pleine mer, donc on est un peu arrêté sur une île en ce moment, mais je ne quitterai pas le navire et je les accompagnerai au moins jusqu'à la fin de la saison.
Donc oui, là, comme toutes les autres équipes de hand, l'USM est à l'arrêt pour quelques semaines, mais avec toujours les mêmes objectifs de monter.
Oui, oui. Je pense qu'il faut rester dans cette dynamique-là parce que c'est ce qui nous permet aussi de rester dans le projet et de garder nos licenciés motivés. Notre projet il est clair. L'objectif pour les seniors garçons, c'est de monter en National 3. L'objectif pour les seniors filles, c'est de monter en pré-national. Les objectifs doivent rester clairs et on doit rester motivé autour de ces objectifs-là. Donc on verra quelles seront les conditions du championnat si on reprend au mois de janvier. Est-ce qu'elles seront modifiées? Est-ce que le championnat sera organisé de façon différente? Parce qu'il faudra bien aller finir la saison, mais tout dépendra de quand est-ce qu'on la reprendra. Mais voilà, je reste... Il faut rester confiant, il faut rester dans les objectifs qu'on s'est fixés. Voilà, les joueurs ils s'entretiennent à domicile pour l'instant, comme dans tous les sports. Et puis c'est l'avenir qui nous dira clairement où est-ce qu'on peut, comment on peut se positionner pour la suite.
C'est vrai que là c'est difficile sans avoir de perspective sur la saison. Comment est-ce que vous l'imaginez cette saison-là avec un nombre de matchs réduit forcément?
Alors, très honnêtement, je ne sais pas vous dire. Je ne sais pas. Encore une fois, ça dépendra vraiment de quand est-ce qu'on aura la possibilité de pouvoir reprendre, parce que rien que si on peut reprendre début janvier ou si on peut reprendre fin janvier, ce sera déjà très différent. Maintenant, voilà. Est-ce que la communauté sportive française est prête à aller à faire différemment aussi d'habitude? Est-ce qu'on est prêt à aller jouer jusqu'à mi-juillet, fin juillet? Est-ce que il faut absolument que fin juin tout soit arrêté? Est-ce peut-être que cette épidémie, c'est pareil, hein, elle sera peut-être plus là dans quelques mois, mais elle sera peut-être aussi encore là. Il faudra qu'on se prépare sur les saisons à venir. Donc voilà, il faut, je pense, de toute façon, avoir une réflexion à beaucoup plus long terme pour qu'elle soit le plus adaptée possible à la réponse qu'on pourra faire à nos licenciés.
Très bien. Donc en tout cas, des beaux et grands défis en tout cas qui vous attendent pour cette saison et pour les prochaines années.
Exactement.
Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Une petite précision, l'interview a été enregistrée avant l'annonce d'Emmanuel Macron sur la reprise du sport pour les enfants en club, et ce, dès le mois de décembre. I woke up this morning with a ponytail. My bed was moving, I didn't feel well. I heard my hand talking to my hand. She told her she was a very special hand. C'était Pyjama plutôt, avec le titre Ponytail sur l'autre radio, évidemment, dans l'émission L'Agité du local. Et puis lundi, nous sommes lundi. Lundi, à chaque fois, nous retrouvons les coups de cœur littérature d'Emily Ranjou.
Court livre signé Eri De Luca, cet Italien que nous connaissons depuis longtemps dans le monde de la littérature. Son nouveau livre s'intitule « Impossible » aux éditions Gallimard. Eri De Luca, c'est un combattant. C'est quelqu'un aussi avec beaucoup de philosophie, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, beaucoup de connaissances. Il a été traduit en justice par le gouvernement italien pour raison de, ouvrez les guillemets, sabotage. Voilà, c'est quelqu'un qui s'est opposé au projet de tunnel entre Lyon et Turin. Et voilà, il aurait incité comme ça les Italiens à se soulever et surtout saboter cette construction. Mais il en est fortement autrement. Eh bien, je crois de cette expérience, Eri De Luca en a peut-être tiré l'essence même de son nouveau livre qui s'intitule donc « Impossible ». C'est un court roman, comme je le disais, qui va être en gros une conversation entre un homme qui a un passé révolutionnaire, qui est face à un magistrat. Ce magistrat l'accuse et va essayer de le pousser dans ses retranchements pour qu'il admette que dans l'une de ses escapades alpines, il a peut-être tué ou poussé quelqu'un, un adversaire, un ex-adversaire politique dans cette montagne. Lui, cet homme qui est face au magistrat, réfute totalement cette accusation. Et voilà que va commencer dans ce huis clos étouffant et véritablement tendu une conversation à couteau tiré entre cet homme et ce magistrat. L'un comme l'autre va essayer d'avancer ses pions, ses arguments pour aller au bout de sa théorie. C'est absolument excellentissime parce qu'à travers la figure de cet homme qui est accusé, nous avons quasiment une ode à la résistance. Cet homme va véritablement s'opposer à toutes les accusations du magistrat et il va se défendre comme jamais. C'est-à-dire qu'il a véritablement tous les arguments politiques, sociologiques, philosophiques pour contrecarrer l'attaque du magistrat. Alors c'est une conversation qu'on lit dans ce livre comme si on y assistait. C'est vraiment excellent. J'ai adoré ce livre. D'autant plus que lorsque ce révolutionnaire retourne en prison entre chaque entretien, il écrit des lettres à sa femme et ce n'est pas qu'une ode à la liberté, à la résistance et à la réflexion que Eri De Luca nous offre dans ce livre, c'est aussi un livre qui parle de montagne et aussi d'amour. Je vous invite à lire et à relire ce livre riche et pourtant court de Eri De Luca, Impossible chez Gallimard.
Retrouvez Aime lire en joue, 10 places Paul Doumer, à Château-Gontier, et sur l'autre radio.
Et Claire, tu nous emmènes toute cette semaine dans un FJT mayennais, un foyer de jeunes travailleurs qui s'adapte au confinement et aux nouvelles conditions sanitaires.
Et oui, c'est parti à la rencontre des résidents et ceux qui font fonctionner la résidence Habitat Jeune Pierre de Coubertin à Laval. Cette résidence, comme les deux autres de la ville, accueille des jeunes entre 16 et 30 ans en premier emploi ou étudiants. Elle propose des logements, mais aussi bien plus que ça. C'est ce que nous expliquent aujourd'hui les deux animateurs, Mustapha et Alexandra, tous deux présents depuis plus de 10 ans et surtout présents pendant le premier et deuxième confinement. Ils nous expliquent comment ils s'organisent.
Donc nous, on a 86 logements, donc ça veut dire potentiellement 100 personnes qui peuvent habiter ici car il y a des colocations. Donc le challenge numéro 1, c'est de faire cohabiter et vivre toutes ces personnes ensemble car on n'est pas seulement un logement, on est bien plus qu'un logement. Donc il y a tous les services que l'on peut proposer à côté, la restauration, les espaces collectifs, mais il y a aussi toute cette vie collective et c'est aussi cette vie individuelle où nous, on peut accompagner les jeunes sur certaines thématiques. On dit bien que le FJT, c'est un tremplin vers l'autonomie.
Le premier confinement a pris tout le monde du cours, donc du coup, les premiers jours ont été perdus, comme la plupart des personnes, je pense, en France. Et puis une semaine après, donc on a essayé de nous organiser d'abord par le télétravail. Et puis un mois après, nous étions contraints de faire du présentiel. Donc, du coup, on ne venait pas sur des amplitudes horaires énormes, mais voilà, on essayait de quand même venir au boulot et puis d'être en contact avec les jeunes pour mieux vivre le confinement. Parce que l'essentiel de notre vie ici, c'est notre vie professionnelle en tout cas, se passe avec les jeunes.
Ce premier confinement, on n'était pas forcément équipés. On avait du gel. Les masques, on en avait quelques-uns, mais c'était des fabriqués maison. Après, je pense que voilà, c'était surtout le gel. On faisait attention aux distances. Mais pour moi, ça n'a pas été forcément un climat anxiogène. Les mots d'ordre, c'était présence, échange, écoute, quoi. Pouvoir échanger avec les résidents, comment ils vivaient ce confinement, et aussi s'appuyer sur des résidents qui étaient moteurs aussi dans la résidence pour continuer la vie dans notre petite mini-ville. Quoi.
Bah après, le deuxième confinement, c'est mieux. Là, on savait qu'on allait être confiné, donc on s'est organisé. Et en plus, on n'a pas eu de contraintes spéciales de quitter. Nous continuons de travailler comme on a l'habitude de travailler, sauf que voilà, nous respectons aussi les règles sanitaires édictées par le gouvernement. Donc, on fait des animations, mais un nombre vraiment restreint. Et puis, je pense que ces temps-ci, c'est plus notre présence et plus de la médiation que nous faisions et puis de la sensibilisation auprès des jeunes pour le respect des règles sanitaires.
On a même eu des interventions, nous, au niveau de l'Union régionale des habitats jeunes, donc qui est venue au sein de la résidence parler des gestes barrières. On en a aussi longuement parlé avec les résidents, donc c'est des choses que quand même on a acquis. Je pense qu'on le vit différemment. Et on ne veut pas que la vie s'arrête comme au premier. C'est pas comment ça se passe à l'intérieur, comment les résidents y vont, ils sont loin de leur famille. Voilà, on se pose beaucoup de questions. Donc là, on a quand même beaucoup utilisé les réseaux sociaux. Hein. Et ben, heureusement qu'ils étaient là, parce que ça nous a vraiment permis de garder du lien avec les résidents. Après, il faut qu'on arrive à distinguer ceux qui ont choisi et qui ont envie de rester seuls, ceux qui restent chez eux mais qui ont peur. Voilà, il y a vraiment différentes situations et ça peut vite dériver. Donc, il faut vraiment qu'on soit vigilant à ça. Donc, c'est pour ça que là, vraiment, ce deuxième confinement, mon collègue et moi, on est là. Tout le temps, on couvre l'amplitude horaire 10h-21h. Et vraiment, vraiment, les mots, c'est présence, écoute, échange. Donc, même confiné, on fait nos élections, parce que c'est aussi important. Les élections des représentants des résidences, et voilà, on élit les représentants au niveau de la résidence. Donc, c'est les résidents qui vont être élus et qui vont faire le lien, en fait, entre la résidence, le conseil d'administration. On continue, même si on est confiné, on continue quand même la vie dans la résidence. Et c'est important.
Les habitats jeunes, ce sont des structures qui relient l'offre d'hébergement, mais aussi l'offre de vie collective.
86 personnalités différentes, 86 origines différentes. Donc c'est très riche et je pense que c'est la plus-value des foyers de jeunes travailleurs. Donc effectivement, notre mission première, c'est de proposer du logement. Mais derrière le logement, il y a vraiment tout un aspect culturel et une véritable richesse qui en sort. Et je pense que c'est le plus important.
Pour les animateurs, leurs actions restent donc plus ou moins les mêmes, avec un peu d'adaptation, mais le but est de maintenir le lien entre les résidents. Cependant, nous verrons demain avec la directrice de la résidence, Dominique Jinquière, que l'adaptation n'est pas si simple.
Et oui, on va poursuivre donc, vous l'avez compris, tout au long de cette semaine, notre série autour du confinement vécu au FJT à Laval. Et puis on continue comme chaque jour dans notre émission désormais, un rendez-vous bien, bien implanté, ton journal des initiatives Claire. Et on commence à Laval, enfin on reste à Laval avec l'association La Porte Ouverte d'accueil de jour qui étend ses horaires et qui reste ouverte.
L'association Lavalloise propose un accueil de jour aux personnes sans domicile fixe et a annoncé, contrairement au premier confinement, pouvoir garder ses locaux ouverts. La Porte Ouverte propose un petit déjeuner, un déjeuner, des boissons chaudes, un service de laverie et des douches tout au long de la journée. Les horaires sont modifiés mais surtout étendus du lundi au dimanche de 10h à 17h30. N'hésitez pas à les contacter au 07 67 75 36 05.
Le musée d'art naïf et d'art singulier de Laval relance ses tutos.
Le Manas propose, comme au premier confinement, de vous occuper grâce à leurs nombreux tutoriels. Il y avait à voir et à manger pour réaliser des plats très visuels mais très gourmands. Pour ce deuxième confinement, il y a déjà en ligne l'art à demeure pour réaliser des portraits sur pierre à la façon par exemple de Jean-Joseph sans fourche. Il y aura des rendez-vous réguliers pour découvrir les expositions temporaires du musée. Bref, plein de choses à découvrir sur leur compte YouTube, les musées de Laval.
Et le club photo d'Aron vous lance un défi.
Lors du premier confinement, le club avait déjà lancé un défi photo et l'association remet ça avec pour thème l'esprit de Noël et photo insolite de votre objet préféré se promenant à Aron. Il faut donc faire preuve de créativité pour mettre en scène son objet et pour le responsable du club, Alain Nicou, c'est un moyen pour les gens de sortir de la morosité et de mettre en valeur la commune. Les clichés seront diffusés sur la page Facebook du club et les membres espèrent, comme au premier confinement, pouvoir être exposés sur des bâches au parc des Forges. Envoyez vos clichés par mail à photoclubaron@gmail.com.
Merci Claire pour toutes ces bonnes idées aussi pour nous occuper en ces temps de confinement. On rappelle donc, auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser vos propres initiatives, vos propres idées, pourquoi pas vos messages, vos pensées sur notre répondeur au 09 70 40 59 40. C'est déjà la fin de notre émission L'Agité du local pour ce lundi 23 novembre. Merci Claire.
Merci Marie, à demain tout le monde.
À demain évidemment puisque nous revenons demain, mais évidemment l'antenne se poursuit avec à 19h Solénoïde, à 20h la discothèque du programmateur. Prochaine émission donc, vous l'avez compris avec grâce à Claire, demain à 12h15. Bonne journée à tous.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.